Vous écoutez France Culture.
Content de retrouver Boston ?
Oui, assez. Je peux te poser une question ? J'aimerais une réponse franche.
Je t'écoute.
Tu trouves que je parle trop vite ?
Il t'arrive parfois d'être un peu vif.
J'ai une excellente pratique professionnelle, sans parler du respect de l'éthique. Nous sommes payés à l'heure. Nos clients paient le temps que nous passons à parler. Tout avocat a l'obligation de ne pas surfacturer. Donc, si je parle vite, c'est parce que je suis...
très respectueux du client.
Benoît Lagan.
Éric Vera.
Série télé.
L'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, épisode 18.
L'Amérique au banc des accusés, les séries judiciaires.
Bon, vous avez réussi à trouver, Eric ?
Ben voilà, on y est. Hein. Donc, ouais. Les couloirs du Palais de Justice de Paris.
Oui.
Pour une émission spéciale.
Consacrée aux séries judiciaires. Et puis, on trouvait que c'était le lieu idéal pour en parler.
Ouais, on a aussi trouvé le témoin idéal. Elle s'appelle Barbara Vilez. C'est une juriste, elle est franco-américaine. Elle a écrit un livre, on va en reparler, hein, pendant l'émission, qui s'appelle « Série télé, les visions de la justice », qui est vraiment un livre très intéressant du point de vue et du regard de la justice américaine, et puis justement du traitement qui est fait dans les fictions américaines. Et donc elle va nous accompagner tout au long de l'émission.
Communauté du Massachusetts contre Coleman.
Bonjour, votre honneur. Avez-vous reçu mon complément de dossier ?
Oui, et je refuse les circonstances atténuantes. J'avoue que la monstruosité de ce meurtre, pour lequel il n'a aucun remords, apparemment, me pousse à accepter les recommandations de l'accusation.
Votre honneur, je crois que...
En conséquence, la sentence infligée au défendant Roland Coleman sera de 3 réclusions à perpétuité à Cedar Junction sans possibilité de remise de peine. Le défendant devra être transféré sans délai. La séance est levée. Affaire suivante.
Attendez. On va faire appel. C'est notre droit, alors ne parlez de rien. C'est loin d'être fini. Votre voisin de cellule ne sera pas un ami. Il aura autant envie de sortir que vous. Regardez-moi. Regardez-moi. Si votre mère vient vous voir, regardez sa carte d'identité avant même de lui dire bonjour. Sue ! Suzanne !
Non, allez-vous-en.
Écoutez-moi, j'essaierai de faire vite.
Je n'ai rien à dire. J'ai droit à des reproches dès que je vous parle. Mes patrons sont furieux que j'ai accepté cet accord.
C'est de la compassion, c'est tout.
Oh, n'insistez pas, mes patrons croient qu'on est amants alors qu'il est. Je suis d'accord pour 10 mois.
Je la ferai acquitter. Qu'est-ce que vos patrons en diront ?
Bonne idée, faites-la acquitter. Mais quoi que vous obteniez, ce ne sera plus mon fait. On se retrouve à l'audience.
Dans l'épisode précédent, Eric, nous avons longuement parlé des séries médicales, un genre qui a toujours existé, mais qui a su se renouveler, on l'a vu, avec urgence dans les années 90. Alors, ce soir, nous proposons une émission entièrement consacrée à la série judiciaire, qui, comme la série médicale, a une longue histoire aux États-Unis. Ces séries portent aujourd'hui un regard assez juste sur la société américaine contemporaine, mais depuis que la série télé judiciaire existe, cela a-t-il toujours été le cas ? C'est une question que l'on est en droit, sans mauvais jeu de mots, de se poser. Barbara Vilez nous répond.
La plus importante, c'est Perry Mason. Pour moi, c'était vraiment un moment... important de la semaine. J'étais toute petite, je voulais même épouser Perry Mason, et puis 15 ans plus tard je voulais le devenir. Donc dans The Defenders, qui était une série extrêmement importante dans les séries judiciaires, vous aviez des questions, c'était quand même début des années 60, des questions de l'avortement, des questions de licenciement à cause des questions raciales, une forme d'harcèlement sexuel, etc. Donc on posait des questions qui étaient des questions d'actualité, mais je pense que certains Américains étaient un peu frileux pour en parler directement. Mais c'était dans une histoire de fiction, donc on pouvait le traiter. Les vrais événements importants, comme le 11 septembre ou les assassinats, etc., ça venait plus tard, parce qu'on avait moins peur de faire des choses tout de suite. Et puis bon, maintenant, il y a n'importe quel fait divers qui se retrouve dans Law & Order 2 semaines après. C'est incroyable. Ils sont très rapides. Pour, d'ailleurs, il doit y avoir quelqu'un qui lit le journal et qui refait le scénario dans les 5 heures qui suivent.
Alors, on est d'accord pour dire que les séries judiciaires, elles rentrent en écho avec tout ce qui se passe dans la société américaine, aussi bien ancienne que contemporaine. Barbara Vilaise, elle développe une thèse qui va encore plus loin que ça, puisqu'elle nous dit que les séries judiciaires, finalement, elles éduquent le peuple américain. Elles ont un rôle civique, elles ont un rôle didactique. Et donc, paradoxe, elles éduquent même les Français, ce qui conduit donc à de drôles de situations. On l'écoute.
Le plus gros exemple, qui est d'ailleurs la source du livre, c'est le constat que tout le monde appelait le juge « votre honneur » en France. Ça agace tout le monde, ça agace surtout les juges, mais n'empêche que il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils parlent aux juges, ils disent votre honneur. Il y a des jeunes lorsqu'ils sont arrêtés, pas uniquement à Paris d'ailleurs, qui demandent aux policiers de leur lire leurs droits. Ce sont des droits de Miranda qui sortent d'un arrêt de la Cour suprême en 1966, et il n'y en a pas en France. Ils demandent leur coup de téléphone. Ça aussi, c'est un coup des séries judiciaires ou des séries policières. Alors, ce que je constate, c'est que ces informations-là viennent de quelque part. C'est pas dans les livres, c'est pas dans des cours d'éducation civique, judiciaire et sociale. Donc, ça vient de la télévision. Donc, ça prouve le potentiel didactique de la télévision. Et c'est quelque chose dont les Américains profitent depuis très longtemps. Pour un comportement social, pour le droit, pour tout le monde hospitalier, ça, ils en profitent depuis très longtemps. En France, je ne pense pas que le potentiel didactique est respecté.
Now, returning to People's Exhibit 5, the police laboratory report, just to review, what did the side of the table, the overturned chair, and the door moldings inside that house reveal?
They all showed fingerprints of the defendant. That plus hair samples, blood, the rest.
Alors Benoît, si on veut commencer une histoire chronologique des séries judiciaires, je crois que commencer par Perry Mason, c'est pas un mauvais choix.
Non, Perry Mason est bien évidemment la première grande série judiciaire américaine, même si avant il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs séries, des séries flirtant parfois avec même le jeu télé. Mais et bien évidemment, Perry Mason est la série majeure. Barbara Vilaise, dans un instant, nous en fera une description assez détaillée. Mais avant de l'appeler à la barre, il est peut-être intéressant d'apporter quelques pièces au dossier, Eric, à propos de Perry Mason. Perry Mason, d'abord, c'est un personnage de roman, imaginé par l'avocat et écrivain Earl Stanley Gardner en 1934. Perry Mason a été adapté d'abord en feuilleton radiophonique entre 43 et 55 et la série télé apparaît pour la première fois sur le petit écran en 57 et durera jusqu'en 1966 puis reviendra même dans les années 80 pour 26 téléfilms d'1h30. Enfin, dernier point, dans le rôle-titre est engagé
Raymond Burr.
Raymond Burr, qui est un comédien repéré pour un second rôle dans un film d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, et qui sera embauché donc pour jouer ce fameux Perry Mason, et ce personnage le marquera toute sa carrière.
C'est vrai que Perry Mason, il faut se rappeler que c'est une structure très simple. Le schéma de chaque épisode est toujours le même. La structure est pareille. Si vous voulez, il y a une situation de famille ou d'entreprise. Il y a quelqu'un qui est un peu mis à l'écart et on lui donne un motif de ne pas être content, peut-être avec quelqu'un, et ce quelqu'un va se trouver assassiné. Donc, la première personne dont j'ai parlé va se trouver accusée et Perry Mason va prendre sa défense. Perry Mason ne prend sa défense que lorsqu'il croit que la personne est innocente, mais chaque semaine, la personne était innocente. Et par son talent de défenseur et de plaideur, il va confondre un témoin ou quelqu'un dans le public et son client est innocenté. Chaque semaine, c'est pareil. Alors, ça a permis quoi? Ça a permis de savoir où est le juge dans une salle d'audience, ce qu'il fait, c'est-à-dire à l'époque très peu, ce que fait l'avocat de la défense, que le procureur, c'est l'avocat de l'État, il défend les droits de l'État, la protection de l'État, qui travaille avec la police, où il s'assoit par rapport au juge, qui s'adresse au juge, qui s'adresse aux avocats, qui s'adresse au jury. Bon, tout ça, si vous voulez, la dynamique du procès était établie par la série Perry Mason. Chaque épisode, chaque semaine, on mettait en place peu à peu, on se familiarisait peu à peu avec le déroulement du procès et les personnages et l'emplacement dans la salle d'audience. Donc ça donnait les premiers repères. Ça n'enseignait pas vraiment sur le droit. Hein, parce que le public et moi n'avions pas la sophistication de pouvoir poser les questions, se poser les questions qu'on fait maintenant. Et dans les séries des années que vous connaissez bien, les années 90, les séries judiciaires posent des questions extrêmement sophistiquées et complexes. Et le public est prêt, parce qu'il a 50 ans d'expérience avec le droit.
Barbara Villès, dans son livre « Série télé, vision de la justice », elle recense près d'une centaine d'œuvres sérielles à caractère judiciaire. Donc ça montre un petit peu quand même l'importance de ce genre aux États-Unis. Donc Perry Mason, rôle majeur, parce que fondateur, elle explique qu'il apprend finalement le droit basique à des générations d'Américains. On pourrait parler d'un autre grand tournant, c'est le tournant des années 80 avec la loi de Los Angeles. Hein, alors là, Stephen Bochco, encore lui, hein, on avait parlé de lui avec Hill Street Blues, il dynamite les codes, hein, et surtout il permet l'éclosion d'un auteur majeur dans le domaine des séries judiciaires, c'est David E. Kelley, lui-même ancien avocat, hein, et on en a parlé dans l'épisode sur justement les années 90.
Ce qui était important dans cette série-là, c'est que tout premièrement, on a vu le cabinet. Et c'était un gros cabinet. Donc il y avait toutes sortes d'avocats et il y avait des gens qui se spécialisaient en pénal et d'autres en droit du contrat et d'autres en droit de divorce, etc. Et on voyait non seulement les avocats défendre leurs clients, mais interagir les uns avec les autres. Donc il y avait toutes les questions d'ambition et de jalousie et de coopération, etc. Et aussi, évidemment, comme c'était une série du soir, il y avait des histoires d'amour. Et... Le cabinet va pousser quelqu'un à défendre quelqu'un ou à chercher. D'ailleurs, c'est vrai, il y a des cabinets qui engagent des avocats sur le principe qu'ils vont ramener des clients vers le cabinet. Et on ne pense pas à cet aspect-là de leur travail. On voit aussi un avocat qui passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur une affaire, et surtout parce que cette affaire représente beaucoup d'argent et pas parce que c'est particulièrement intéressant. Donc, l'importance d'un client... parfois pour l'argent qu'il représente pour le cabinet, est évoqué dans la série. Peut-être trop souvent, mais quand même, c'est la première fois que le public prend conscience de cet aspect, le public lambda, hein, je veux dire, pas le public qui a déjà eu affaire avec des avocats.
En quoi, justement, cette série prépare ce que l'on verra ensuite au courant des années 90 de Murder One, effectivement, jusqu'aux séries même des années 2000.
Bah, tout d'abord, il y a le récit ouvert. Ça, c'était un changement qui a complètement... on ne peut plus revenir en arrière. Ça permet de voir le temps du procès complètement différemment, parce qu'on peut suivre une affaire très longtemps, pendant tout son déroulement, et en appel, et après, on a souvent... une affaire qui est terminée, qui est résolue, mais quelques semaines ou quelques mois ou même une saison plus tard, le client revient avec un autre problème qui est vrai, c'est dans la vie. Donc ce récit ouvert a permis de voir les gens vieillir, de voir les gens changer de cabinet, tout est possible.
Ça a permis de se rapprocher de la réalité du monde juridique ?
Du monde juridique et de la vie, parce que nos vies ne se contiennent pas en 50 minutes, donc... On sait que le droit, le procès, est une affaire de temps. Et en 50 minutes, on était obligé de couper trop de choses. Donc maintenant, on peut tout traiter. Et je pense que c'est ça l'élément le plus important. Alors évidemment, les jeunes qui ont écrit ou qui ont regardé les lois ont été inspirés pour... tout était possible. Donc ils ont écrit des choses beaucoup plus complexes après. Et puis, il ne faut pas négliger l'exigence du public. Le public est mûr. Et il peut rester intéressé par une question extrêmement complexe.
rassure-moi, toi non plus, t'avais encore jamais vu un truc pareil?
Montrer ses fesses à 24 avocats, dont deux au-delà des océans, c'est un triomphe sans précédent. Je ne peux que m'incliner. Et d'ailleurs, je me demande comment je n'y avais pas pensé moi-même.
Tu sais ce que j'aime chez toi?
Non, pas vraiment.
Excusez-moi, navré de vous interrompre. Brad Chase, on me demande de rester à Boston et j'y réfléchis. Je crains que nous ne soyons partis du mauvais pied. Et je veux que tout soit parfaitement clair. Alors, s'il y a le moindre problème, parlons-en, s'il vous plaît.
Je suis absolument incapable de parler aussi vite. Et je préfère la pénombre à une trop grande clarté. Mais j'aime beaucoup votre look de pub pour un après-rasage.
Une cliente vous attend en salle de conférence, je vous la confie. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes sous mes ordres.
Sous vos ordres? Je suis pire qu'une chienne pour ce qui est de l'autorité.
Je crois que ça va aller. C'est l'heure où les petits garçons quittent le bac à sable.
Alors entre l'avocat à la Perry Mason, puis ceux imaginés par Steven Bochco ou David Ikele, on voit bien que les temps ont changé. Il est indéniable que l'image de l'avocat s'est tout doucement écornée. Alors comment l'image de ce justicier a-t-elle évolué? Barbara Vilez a quelques éléments de réponse.
Bon, Perry Mason, il était intéressant d'utiliser Perry Mason pour voir la justice, en fait. On avait besoin d'un héros à l'époque, c'était le héros avocat. Et comme je dis dans le livre, il n'avait pas de vie privée, il était pratiquement asexué, il n'y avait aucun aspect de sa vie privée ou de... Et il était le servant qui venait acquitter les innocents. Et pour ça, il fallait que tous les clients soient innocents. Le doute commence à venir sur le client et donc sur les tactiques des avocats dans les années 70, mais c'est suggéré, c'est pas très clair. Dans les années 80, on voit le cabinet, on voit les questions d'argent, on voit les questions d'ambition personnelle, on voit les intrigues entre avocats parce qu'on essaie de voler les affaires des uns des autres. On voit qu'on commence à avoir des problèmes d'éthique. Et ensuite, on voit l'avocat qui est très faible, qui a des problèmes, qui a des problèmes de famille ou qui a des problèmes de drogue ou qui a des problèmes de comportement par moment, qui a des problèmes d'argent parce que le cabinet dans The Practice est au bord de la faillite très souvent. Donc on voit les avocats qui prennent des stratégies pour essayer de faire venir des affaires et dans The Practice, ils vont défendre tout le monde. Acquitter les pires des crapules parce que, comme ça, au moins, ils sont sûrs d'avoir des clients. Arrive l'année 2006 et on a Shock. Shock commence par un grand avocat pénal qui défend les pires des criminels et il arrive à les acquitter parce qu'il est exceptionnellement doué. Et ça commence l'image actuelle de l'avocat, qui n'est plus l'avocat ange, sauveur, pur de Perry Mason, ou qui se rachète parce qu'il a des scrupules des années 80-90. On a maintenant le technicien, qui est très doué, qui est capable de faire acquitter n'importe qui. Et dans Damages, c'est pareil. On voit maintenant le côté technique et professionnel et on ne va plus les voir comme anges qui va nous sauver. On va aller les voir parce que si on a une machine qui est cassée, on veut quelqu'un qui peut réparer la machine et on veut pas payer 5 fois pour qu'on répare la machine. Et donc, on veut un avocat qui peut faire que cette affaire se termine le plus rapidement possible.
In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups. The police who investigate crime, and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories.
Alors ça y est, on est dans les années 90, hein, donc très très grand cru pour les séries en général. Les séries judiciaires n'y échappent pas. Faut dire aussi que le contexte s'y prête. Il y a deux énormes affaires, l'affaire Clinton qui va durer des années, et puis l'affaire O.J. Simpson. Dans chacun de ces cas, c'est des cas médiatiques avec énormément de rebondissements, c'est quasiment des fictions à part entière, et donc la fiction télé américaine va s'infuser dans tout ça, et puis produire des séries vraiment de très haute qualité. Alors, je vais parler de deux grandes séries, Law and Order, la première, c'est produit par Dick Wolf. C'est une série moitié judiciaire, moitié policière. D'ailleurs, on en reparlera aussi dans l'émission consacrée aux séries policières modernes. Law and Order, c'est une plongée dans les rouages de l'appareil judiciaire américain. La série, elle a débuté en 90, elle existe encore, hein, donc 18e saison. Elle est partie pour battre le record de Gunsmoke, c'est-à-dire plus de 20 saisons à l'antenne, à la télé américaine. Alors, c'est une série indémodable, intemporelle. Il y a une vraie efficacité. Il n'hésite pas à utiliser tous les ressorts médiatiques et temporels. Si une affaire existe, elle est traitée quelques semaines, quelques mois plus tard dans Law and Order, à tel point que la série maintenant est enseignée dans certaines facs de droit aux États-Unis. Hein. Donc, on peut dire pour ça que Law and Order, c'est vraiment un des piliers de la fiction contemporaine actuelle.
Alors, il y a des messages sous-jacents dans la série. Il y a un rétablissement de l'ordre dans les affaires qui marchent, qui arrivent à... Parce que c'est toujours du point de vue du procureur. Donc, lorsqu'on arrive à avoir une condamnation, c'est l'ordre qui est restauré dans la société. Mais ça montre aussi que souvent, ça ne marche pas parce que la loi n'équivaut pas à la justice. La loi, souvent, met des obstacles à la justice. Vous voyez aussi, il y avait un épisode qui était très très important où il y avait un témoin qui avait par ailleurs des problèmes avec la loi. Et son avocat lui a dit « ne témoignez pas parce que vous serez obligé de dire pourquoi vous avez été arrêté. Et on peut vous arrêter de nouveau. » Finalement, il décide que c'est beaucoup plus important de témoigner. Il risque donc d'aller en prison. Et à la fin, il y a le procureur qui ferme la lumière et qui sort avec deux substituts et dit « C'est quand même incroyable de croire que tout le système judiciaire dépend d'un citoyen comme celui-là, qui par ailleurs, l'État a enlevé les charges, donc il a été récompensé pour sa bonne action citoyenne. » Donc c'est une série qui est plein de messages et qui est très didactique et qui se veut didactique. Et... encore une fois, et parfois tellement complexe du point de vue du droit, que je pense que si c'était encore plus élaboré, les gens décrocheront comme vous. Souvent, il y a une question au milieu d'un procès, on est obligé d'interrompre le procès pour aller en appel, poser la question de droit. On voit le cours d'appel de l'État qui se pose la question sur comment interpréter la loi, puis donne une réponse. Et on reprend le procès parce qu'on a maintenant une réponse de l'autorité. Donc ça, c'est en effet très difficile pour le public.
Fiction judiciaire à découvrir de toute urgence si c'est pas fait, et c'est possible hein, parce que c'est une série qui est sous-estimée, qui est passée un petit peu à la trappe. Il y a une saison et demie, ça s'appelle Murder One, c'est signé Steven Bochco, donc notre habituel Steven Bochco, là on voit quand même un petit peu l'envergure du personnage. Donc là lui signe on va dire une série assez concept hein, puisque en fait elle suit durant une saison l'intégralité d'un procès. C'est une sorte de damages, mais dans le bon sens, hein, dans l'ordre. Donc c'est l'époque toujours des procès médiatiques. Donc la série, elle va vraiment copier tout ce qui se passe dans la réalité. Donc elle montre très très bien les jeux de pouvoir. C'est-à-dire comment les médias peuvent influencer les parties, comment finalement la personne la plus accablée n'est pas forcément celle qui va ressortir avec le maximum de charges. Et tout ça est vraiment disséqué. Et encore une fois, c'est des séries qui sont montrées dans les écoles de droit parce que c'est écrit avec des avocats et que ça va très très loin dans la véracité de tout ce qui peut jouer dans la série.
Murder One, c'est l'histoire sur la première saison d'une affaire seulement de meurtre, d'un meurtre un peu sordide d'ailleurs parce que il y a de la drogue, et voilà. Et il y a beaucoup de suspects, enfin il y a changement de suspects au début. Et toute la première saison, c'est le déroulement de cette affaire. On voit la place des médias, c'est la première fois qu'on voit l'importance du jury, des membres du jury, qui deviennent des personnes et pas juste des visages dans un box à qui on parle, mais on les voit très très peu, même dans les fictions. Donc on voit les avocats qui préparent les témoins et qui préparent les dossiers. Enfin, il y a vraiment chaque aspect de la préparation et du déroulement du procès qui est donné dans tout son temps et toute sa vérité. Alors les critiques ont adoré cette série parce qu'ils ont dit enfin on est vraiment pris, enfin, c'est vraiment quelque chose à notre hauteur. Mais le public, encore une fois, a trouvé ça un peu trop complexe et trop long et trop...
Dans le cas des séries judiciaires, bon, c'est peut-être vrai dans d'autres séries, hein, il y a peut-être d'autres exemples, mais dans le cas des séries judiciaires, les Américains, on pourrait dire qu'ils vont plus loin. Hein. Finalement, là où dans d'autres fictions, ils peuvent être parfois démonstratifs, parfois même un peu trop, beaucoup de choses surdites, là, finalement, ils n'ont pas peur de sortir des procédures extrêmement complexes, ils n'ont pas peur d'aller très loin dans des points de droit, et Barbara Villès nous en a parlé aujourd'hui. Donc, je trouve que dans le cas des séries judiciaires, finalement, on se rapproche pas mal de la conception britannique de la fiction, vous voyez, dans l'avancée de l'histoire qui prime sur l'explicatif, sur des choses dites et surdites.
Alors, il y a Damages qui est très complexe. Moi, j'avoue que je suis en train de travailler dessus parce que ça me pose plein de problèmes. C'est un niveau vraiment très...
C'est peut-être
très...
plus abouti aujourd'hui en...
Oh oui, parce que, premièrement, il y a une question judiciaire, juridique, pas judiciaire, qui se dévoile dans cette série. Et c'est toute la partie préparation du procès. Alors, je disais tout à l'heure que la préparation du procès dans le système accusatoire est moins longue que le procès en lui-même, sauf pour la question de discovery, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le système américain, moins en Angleterre, on commence à le voir un petit peu ici, mais c'est pas la même échelle du tout, et c'est l'obligation de fournir à la partie adverse tous les documents, toutes les informations qui peuvent avoir un lien, un intérêt pour le procès. Donc, on a tendance à demander certains documents et l'autre partie va vous noyer en documents et il faudrait ensuite trier, étiqueter tout ça. Ça prend des heures et des heures et des heures et toutes les heures sont chiffrées. Donc, ça, c'est un aspect de la préparation du procès qui est vu pour la première fois dans la série. Une série qui pioche un peu partout et qui a fait quelque chose de complexe au niveau du récit, complexe au niveau de l'utilisation de l'image. Et le public est plus sophistiqué à lire des images aussi maintenant. Et très complexe au niveau du droit. Donc, il faut suivre.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes. Prise de son, Olivier Berotte. Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Lionel Quentin. Une émission de Benoît Lagane et Éric Véra.
Chaque série, surtout les séries qui marquaient l'époque, était très importante pour la formation du public. Sans Perry Mason, sans L.A. Law, on ne pourrait pas suivre Damages maintenant. Donc même si le scénariste était capable d'écrire Damages aujourd'hui, s'il n'y a pas eu cette... C'est un apprentissage. Et c'est 50 ans, ou 60 ans maintenant, d'apprentissage.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur franceculture.com à la page de notre émission. Et puis, poursuivez l'aventure dans les pages de Générique, le magazine de la culture série. Demain, les séries fantastiques et de science-fiction des années 90 à 2000. Bonne nuit.
thing.
Il est 23h sur France Culture, retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks, mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes annonces.